des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Au cœur de notre vie, de nos pensées et de nos actions, il y a les émotions. Tantôt sagement endormies, elles s'éveillent soudainement, nous faisant perdre le contrôle de nos paroles et de nos gestes. Les émotions, voilà le sujet qui nous occupe avec le docteur Dominique Desmichel. Comment les maîtriser? Comment vivre avec? Nous tenterons dans cette nouvelle série de faire le tour de nos émotions. Alors, la grande question qui se pose sur les émotions, c'est les émotions nous gouvernent-elles ou bien sommes-nous gouvernés par nos émotions? C'est presque le sujet de toute notre ouais. série sur l'émotion, hein, mais...
Ouais. Alors, est-ce qu'il faut parler de gouvernement, l'un qui gouverne l'autre? Je ne sais pas trop. En tout cas, on sent bien qu'il y a la nécessité de faire une sorte d'alliance et que si on gouverne en permanence nos émotions, on risque de les perdre, et probablement en tant que valeur. Hein, et si on est gouverné par nos émotions, on risque de se perdre nous-mêmes en tant qu'autonomie, puisqu'on va être au fond guidé par ces émotions.
Alors, je pensais aux conséquences qui peuvent être, qui peuvent aller très loin. On le voit, il suffit d'allumer son téléviseur à l'heure du journal pour que l'actualité nous abreuve de faits divers, par exemple. Et on voit qu'aujourd'hui, un accident d'autocar, terrible évidemment, quelque part en France, va provoquer une émotion qui va pousser même un président de la République à se déplacer pour faire un discours. Ce sont des choses qu'on a le sentiment qui sont un petit peu nouvelles et qu'on ne voyait pas auparavant.
Oui, il y a probablement en effet dans notre monde une place importante qui est donnée aux émotions.
Plus grande qu'avant.
Oui, je pense plus grande qu'avant, mais j'allais dire dans un rapport qui est probablement un peu complexe, c'est-à-dire qui est à la fois dans l'idée que les émotions sont chargées de valeur, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, mais qu'en même temps, on demande au fond à l'existence, on lui demande d'être toujours riche de plein de choses, riche d'événements. Donc, en fait, quand l'actualité nous offre son cortège de drames, de tragédies, de meurtres, de morts, de choses comme ça, eh bien, il me semble que si on est relativement honnête avec nous-mêmes, on en ressent souvent à la fois un mélange d'horreur, mais aussi... un mélange d'horreur et un petit peu de jubilation, il me semble.
Oui, c'est ça, oui, ça fait appel à des émotions presque incontrôlables chez nous.
Oui, émotion est contrôlable, certes, mais de temps en temps, émotion bien contrôlée aussi. Hein. Je crois que quand il y a certains feuilletons politiques ou certains drames qui se jouent, de préférence quand même à l'autre bout du monde, comme ça, ça ne nous concerne pas trop. Souvent, on suit l'actualité avec, il me semble, un mélange de, je dirais, de curiosité, de plaisir, et souvent un petit peu un petit soupçon un peu de honte, comme si on se régalait du malheur des autres, comme si voilà, on attendait le nouvel épisode, le nouveau rebondissement de telle ou telle affaire ici ou là, et on sent bien que on peut s'en réjouir ou s'en désoler, mais que peut-être notre position par rapport à ces événements n'est peut-être pas aussi claire qu'elle devrait l'être, il me semble.
Alors, pour filer la métaphore un petit peu plus loin, il y a certains hommes politiques aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont énormément besoin de réguler leurs émotions, de contrôler leurs émotions quand ils font des déclarations sur lesquelles on a le sentiment qu'ils jouent presque leur carrière. Alors, comment régule-t-on ces émotions qui nous submergent? Et puis, j'imagine qu'on soit homme politique ou simple employé, on a les mêmes émotions, on est construit pareil.
Oui. Alors, avant peut-être qu'on aborde cette question de comment on peut essayer de réguler les émotions, je dirais ce qui me paraît important pour les hommes politiques et pour d'autres types de métiers, c'est que ce sont des gens qui sont en permanence dans une extraversion obligée, au fond. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'ils font est susceptible d'être enregistré, filmé, noté, et puis après interprété, discuté. Donc cette position obligatoire d'extraversion permanente est sûrement extrêmement, extrêmement exigeante. Alors j'imagine qu'ils y trouvent leur compte, probablement qu'ils ont appris en effet à réguler leurs émotions, à réguler leur discours en tout cas, leurs émotions intérieures, je ne sais pas trop, mais en tout cas leur discours, la manifestation dans l'extraversion de leurs émotions intérieures, et que voilà, ça fait partie du job, que probablement il y a là quelque chose aussi de fondamentalement narcissique, même si il y en a sûrement une bonne partie de ces hommes politiques qui font ça avec une authentique générosité, le désir de rendre service au collectif. Hein.
Alors ces émotions, elles arrivent, elles nous submergent. On a bien le sentiment qu'on fait corps avec elles et qu'on n'a absolument pas la possibilité de prendre du recul.
Oui, je pense qu'on connaît tous les petits moyens hein, qu'on a pour régler ou réguler plus exactement nos émotions, prendre une grande respiration, essayer de se poser, bien s'asseoir sur son siège, tourner sa langue cette fois dans sa bouche comme les parents disent aux enfants, compter jusqu'à 10, penser à autre chose, aller ailleurs, hein, se changer les idées, relativiser l'événement par exemple. Et toutes ces petites choses sont en plus accompagnées parfois de modalités de régulation qui se déploient sur quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus long, lorsqu'il y a une sorte de répétition, de difficulté à gérer ces émotions. Que ce soit les techniques d'image mentale ou d'imagerie mentale intérieure, que ce soit la relaxation, la méditation. Hein. La méditation, il me semble qu'il y a 20 ou 30 ans, personne n'en parlait. Maintenant, en gros, on peut presque dire à son boulot, quel que soit le secteur, qu'on fait un peu de méditation pour s'apaiser.
Et ça, la méditation, ça joue sur les émotions ?
Oui, oui, oui. On va reprendre ça, je pense, un petit peu plus tard lorsqu'on va essayer de... comme ça. Mais la méditation a une véritable activité. Par exemple, je dis un petit mot en passant, un petit gros mot en passant, par exemple pour calmer l'amygdale, on essaiera de comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure. Et il y a eu des enregistrements très précis qui ont été faits avec des techniques de caméra positon, d'imagerie par résonance magnétique, par exemple. Mathieu Ricard, par exemple, a beaucoup travaillé dans ce champ de recherche. Et on voit qu'on peut tout à fait moduler l'activité cérébrale. Donc, il y a une traduction électrique hein, ou une traduction dans la sécrétion de telle ou telle hormone lorsqu'on fait de la méditation. Et puis, je pense que tout le monde sent bien que quand il est dans une présence, vous voyez, par exemple, si je me dis tout de suite, tiens, je vais essayer de m'asseoir un petit peu mieux, de ralentir un petit peu le rythme de ma voix, de laisser tomber un peu mes épaules. Peut-être que dans une certaine mesure, je vais être moins présent à la dynamique, au fond, de l'émission. Mais d'un autre côté, peut-être que ma voix va être plus tranquille, peut-être que je vais un peu moins tousser, puisque je tousse un peu en ce moment. Mais vous voyez, des choses comme ça. Donc on peut ajuster ça.
Évidemment, il y a aussi des moyens, je pense, médicaments ou alcool.
Voilà, tout à fait. On utilise ce qu'on appelle les psychotropes. Les psychotropes, c'est ceux qui ont un tropisme pour la psyché. Ce ne sont pas des somatotropes, on pourrait dire. Et bah, vous les avez cités. Voilà, les anxiolytiques en général, les autres familles de psychotropes, c'est-à-dire la grande famille des antidépresseurs, la famille de neuroleptiques, et puis la famille de ce qu'on appelle les thymorégulateurs, pour dire voilà, les quatre grandes familles qu'il y a de psychotropes. Mais il y en a aussi que tout le monde peut-être de temps en temps utilise pour le meilleur et malheureusement souvent pour le pire, qui est l'alcool.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas là déjà deux écoles entre guillemets qui s'opposent, celle de la méditation et puis celle du médicament pour schématiser?
Je pense que l'utilisation en particulier des anxiolytiques d'une famille qui s'appelle les benzodiazépines s'est répandue à partir des années 70, je dirais. Ces médicaments n'ont pas montré de toxicité propre. Ils ont montré une efficacité réelle sur le plan symptomatique, c'est-à-dire voilà, les gens qui étaient très anxieux, en gros, on leur donnait un demi-comprimé de quelque chose. Pendant longtemps, je vais citer le nom de spécialité, mais peu importe, parce que c'était devenu presque une sorte d'objet public appartenant à tout le monde. Est-ce que tu as pris ton Temesta? Voilà. Et les gens prenaient leur Temesta, un demi-comprimé ou un comprimé de Temesta. Voilà, on s'est aperçu que plus on avait une utilisation longue, plus ce médicament perdait son activité. Donc, il fallait, pour avoir le même effet, augmenter les doses. Deuxièmement, qu'il y avait en général un phénomène de perte de mémoire, voilà, qui n'est pas sans problème. Et puis, certains ont même accusé cette classe de médicaments d'intervenir dans une des causes des maladies d'Alzheimer. Et vous savez peut-être, la maladie d'Alzheimer est en très, très franche diminution depuis plusieurs décennies. Ça diminue beaucoup et peut-être c'est une maladie qui va disparaître. Je ne veux pas dire que c'est simplement lié à l'ajustement et à la consommation moindre de ces médicaments, mais disons qu'entre les années 70-80 où on prenait son Temesta comme on prenait un demi-comprimé de paracétamol, et puis maintenant où on est quand même plus à les réguler, on en donne moins facilement, en tout cas dans les autres pays d'Europe, un petit peu moins en France, il y a eu quand même quelque chose d'un vrai changement.
Alors, en mettant de côté ces médicaments, deux grands types d'attitudes contribuent à gérer ses émotions.
Voilà, si on veut essayer de schématiser un tout petit peu les choses, on pourrait dire que lorsqu'on est saisi par une émotion, il y a deux manières de faire. La première, que j'appelle un petit peu la page de publicité, c'est-à-dire, en gros, voilà, vous avez vécu un événement difficile, par exemple, vous êtes fait engueulé par votre collègue de travail, voilà, qui vous a traité de tous les noms d'oiseaux qu'il connaissait, et puis c'est un petit peu lourd à tenir. Alors, on met une petite page de publicité, c'est-à-dire on pense à autre chose, ou dans quelque chose de neutre, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Tiens, je vais en profiter pour faire ma liste de courses pour samedi, ou tiens, il ne faut pas que j'oublie, ou j'essaye de me rappeler le livre que je suis en train de lire. Voilà. Alors, de temps en temps, ça peut être lié à un conflit comme ça, mais de temps en temps, ça peut être de manière beaucoup plus immédiate. J'ai une folle envie d'éclater de rire, mais ce n'est pas le moment. Alors, au contraire, vous voyez, par rapport à une situation difficile où je pense à quelque chose de joyeux, ça peut être là, c'est pas adapté, donc je pense à quelque chose de plus sérieux. Et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai comme travail à faire? Voilà.
Mais est-ce que justement l'émotion n'est pas ce phénomène qui va nous bloquer, va nous empêcher de rationaliser pour prendre ce petit recul?
Oui, l'émotion, c'est du côté de la passion. Donc, en effet, ça s'oppose à la raison. Donc ici, dans cette première catégorie, ce n'est pas la raison en tant que raison qui va s'opposer, c'est plutôt en tant qu'artifice, vous voyez, c'est-à-dire on utilise une sorte d'artifice, c'est-à-dire on peut en effet se raisonner, mais je vais y revenir un tout petit peu, c'est plutôt dans la deuxième partie. Là, ça fait un petit peu ça fait de l'art au fond, c'est-à-dire je me dis, je ne sais pas trop quoi, par exemple, je repense à un film que j'aime bien, voilà, parce que où on se dit, ah ouais, tiens, en fait, demain soir, il y a des invités qui viennent à la maison, ça va être sympa, je suis content de les retrouver, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et hop, ça va apaiser ici l'émotion qui est à l'intérieur de soi-même. L'émotion pouvant être liée à un événement extérieur ou à un événement intérieur aussi.
Alors justement, dans un deuxième temps, on va avoir peut-être besoin de réfléchir un petit peu plus et d'élaborer la situation.
Voilà, c'est ça. Dans certaines circonstances, on voit bien que ces petits moyens-là, d'une part, trouvent leurs limites, et deuxièmement, les réutiliser à chaque fois, ce n'est pas toujours simple. Donc, il s'agit, dans cette deuxième modalité de régulation, d'essayer à l'intérieur de soi-même, d'élaborer quelque chose pour prendre un petit peu de distance, c'est-à-dire au fond d'essayer de comprendre ce qui se passe et de le tenir autrement, avec un autre point de vue, pour sortir de la puissance de ce que l'émotion fait à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, on a son meilleur ami qui vient de déménager, on va donc le perdre, il va aller habiter à l'autre bout de la France, et il y a quelque chose d'un lien, d'un échange, d'une discussion, d'une amitié qu'on partageait avec lui depuis longtemps, et donc ça nous prend un petit peu à la gorge, et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais à ce moment-là, on va pouvoir se dire, oui, mais en fait, on va se prendre un petit moment régulier pour se passer un petit coup de téléphone, ou on va prévoir une semaine de vacances ensemble, ou on va s'envoyer un petit courriel régulièrement. Le lien est solide, il va résister à la distance, et donc je peux contenir l'émotion liée à sa perte.
Grâce à la raison.
Oui, grâce à la raison, voilà, c'est ça, grâce à la raison. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un processus lent et un processus qui nécessite une élaboration. Hein. Raison et passion s'opposent. Entre les deux, il y a la petite page de publicité, mais la raison, en effet, s'oppose là.
Docteur Dominique Desmichel, en tout début d'émission, j'évoquais la vie moderne, l'actualité qui nous provoquait de plus en plus d'émotions, en tout cas qui jouait sur nos émotions. Alors la question, est-ce un bien, est-ce un mal? Est-ce que ça se place à un autre niveau? Pourquoi doit-on réguler ses émotions finalement?
Les émotions, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait essentiel dans l'existence, hein, comme on l'a déjà vu lors des émissions un petit peu précédentes. C'est important d'une part parce que elles surgissent dans nos existences, elles surgissent dans notre ressenti et on n'y peut pas grand-chose. Et deuxièmement, comme je l'avais dit aussi, parce que elles viennent donner de la valeur aux choses. Hein. Je pense que c'est très important. Donc elles sont extrêmement utiles et elles vont nous permettre d'adapter notre comportement à notre environnement et elles vont nous permettre de communiquer à l'autre. Hein. C'est-à-dire en exprimant dans mon corps une émotion, j'informe l'autre de quelque chose. Mais on sait bien que ces émotions ne sont pas toujours adaptées. Il nous faut contenir nos émotions, refouler notre colère, cacher notre tristesse, ravaler nos larmes par exemple, ou de temps en temps aussi contenir notre peur. On a la peur au ventre parce qu'on va passer un examen ou parce qu'on a un entretien d'embauche par exemple, et que c'est pas le moment d'avoir trop la bouche sèche, le cœur qui bat trop vite. Et puis parce que de temps en temps, on est dans une situation où on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle pour un proche et il faut aider ce proche. Donc on souffre avec lui, mais il faut tenir cette souffrance pour pouvoir l'aider. Donc les régulations, les raisons de cette régulation sont variables et comme je le dis là, il y a des choses qui sont très très pratiques, éviter des émotions qui sont pénibles et douloureuses, mais aussi réguler celles qui nous apportent du plaisir, comme on l'a vu. Et puis, je le redis parce que ça, c'est l'émotion entre moi et moi, mais il y a aussi l'émotion par rapport à l'autre, c'est-à-dire nous avons à cœur d'aider nos proches, ceux que nous aimons, et notre souffrance peut entraîner une peine ou un chagrin chez les autres, et on souhaite leur épargner cela. Voilà, vous connaissez l'exemple très classique qui consiste à se dire « je viens de recevoir un cadeau » et puis en fait ce cadeau ne me plaît pas du tout. Et on sait bien qu'avec les enfants, par exemple, c'est difficile à expliquer là. Hein, parce qu'un enfant, il va dire à sa grand-mère ou à son grand-père, par exemple, que ça ne lui plaît pas du tout. Et il va là apprendre à tenir quelque chose, c'est-à-dire pouvoir dire « merci papy » ou « merci mamie » ou « pépé » ou « mémé ». Donc retenir quelque chose de son émotion, retenir quelque chose de son sentiment, et puis différer, voilà. Et puis en parler avec ses parents, pouvoir dire bah, « on va peut-être faire un échange » ou peut-être le dire. Et en même temps, différencier l'idée qu'il a le plaisir du cadeau, par exemple, mais que l'objet lui-même ne lui plaît pas. Voilà, et puis dans certaines circonstances, on peut avoir son supérieur hiérarchique qui s'énerve et dont on sent qu'il veut nous demander plein de choses, mais qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de le prendre et de le jeter par la fenêtre, mais que c'est évidemment pas le moment, puis en gros, ça se fait pas. On peut prendre l'exemple de la dame au guichet de la poste, par exemple, qui a quelqu'un qui arrive, qui a attendu une demi-heure parce qu'il y avait un manque de personnel, ou parce qu'il y a eu un incident, ou parce que voilà. Et la personne est extrêmement, extrêmement agressive. C'est important pour la postière, ou la dame au guichet, ou monsieur au guichet de la poste, de pouvoir différencier, par exemple, la critique qui s'adresse à la postière en tant que fonction, et la critique que lui, à son guichet, peut ressentir vis-à-vis de lui-même. Donc il va apprendre à différencier, à dire « ça s'adresse à la fonction et ça ne s'adresse pas à moi ». Donc je garde mon calme, je régule, j'ai l'habitude. Nous, on a à la poste des choses qui nous apprennent à « surtout ne vous énervez pas », etc. Et pouvoir dire à l'autre, par exemple, « Madame, je comprends très bien, ça fait une demi-heure que vous attendez. Ma collègue, d'habitude, elle est là, mais elle est en congé de maternité. Et puis l'autre collègue qui devait la remplacer ce matin, eh ben, elle est malade et elle a la grippe. Vous savez, tout le monde a la grippe. Donc je comprends très très bien, madame, que vous soyez ou monsieur, que vous soyez fâché, mais voilà. » Et on apprend, au fond, à réguler ce type de choses.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir besoin également de hiérarchiser ces émotions? C'est-à-dire, ben, en gros, relativiser simplement mon train à 10 minutes de retard, ça va me pourrir toute ma journée. Oui. On sent bien le déséquilibre entre ça et puis, je ne sais pas moi, un événement beaucoup plus grave qui pourrait avoir lieu.
Ça, je pense, en tout cas, moi, dans le travail que je fais, par exemple, avec les gens que je peux recevoir, c'est quelque chose que je dis très volontiers. C'est-à-dire, à un certain moment, en disant, en effet, il y a quelque chose ça me stresse, je vais être en retard, ou bon. Et puis après, pouvoir se dire, bon, et alors, quel est l'enjeu? Et pouvoir percevoir, par exemple, que le coût psychique de cette émotion qu'on laisse est beaucoup plus important que les réelles conséquences. Je serai en retard, et ben je serai en retard. Voilà. Alors il y a des gens que ça gêne pas d'arriver systématiquement une demi-heure en retard. Il y en a d'autres qui aiment pas arriver avec moins de 2 minutes d'avance. Mais vous voyez ça aussi, on régule. Donc cette hiérarchisation, en effet, est tout à fait importante parce que elle vise à utiliser, en effet, là notre raison pour relativiser, en effet, de se dire bon, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans des états pareils, comme on dit par exemple, alors que finalement, objectivement, c'est gênant, mais pas tragique, alors que subjectivement, je le vis comme extrêmement douloureusement pour des raisons qui ne sont pas pertinentes. Hein?
Alors, la comparaison, est-ce que ça peut aussi être utile? C'est-à-dire, bah, je suis en retard, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de boulot du tout.
Voilà.
Est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on sent les limites de ça aussi à cause de notre égoïsme fondamental et finalement que l'autre n'ait pas de boulot. Bon, ça joue un petit peu, mais pas tant que ça sur ma propre émotion qui est celle d'être en retard et qui est énervée.
Je pense que cette notion de comparaison vaut si elle est profondément intériorisée. Si elle est un discours extérieur qui ressemble à de la morale, ça ne fonctionne pas. T'as pas à te plaindre, toi, tu as du travail, ne te plains pas. Mais c'est pas la même chose. Si on le reçoit comme ça, on risque de le recevoir comme quelque chose d'un petit peu agressif, au fond, jugeant en tout cas sur le plan moral. Si on se dit, certes, c'est difficile, mais au fond, ça pourrait être pire. Et au fond, je m'aperçois que j'ai pas trop à me plaindre parce qu'il y a des gens qui ont, voilà. Donc, ça fait un certain temps que j'ai des difficultés avec mon employeur ou avec mon patron. Mais voilà, j'ai toujours ce métier. Je sais qu'il me casse les pieds, mais qu'au fond, il me fait confiance. Et donc, dans cette relativisation et dans cette comparaison éventuellement à d'autres, il y a quelque chose qui peut être très, très, très utile. Mais ça ne vaut que si c'est celui qui a à hiérarchiser, à réguler et à comparer, le fait lui-même. Si ça vient de l'extérieur, en général, ça ne marche pas parce que c'est comme une sorte de jugement supplémentaire qui, au fond, enfonce un tout petit peu le débordement d'émotions de l'autre. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si en disant ça, on disait à l'autre, ton émotion n'est pas légitime. Voilà. Donc, voilà. Tandis que si soi-même on se dit ça, c'est autre chose. Et vous savez, il y a cette espèce de chose qui poussait dans son extrémité, dit, il leur faudrait une bonne guerre. Évidemment, l'idée est absolument horrible en soi. Mais ça vient dire, dans une forme extrême, que par rapport à plus tragique que soi, et eh ben parfois on oublie ses petits soucis, et que souvent en oubliant ses petits soucis parce qu'on est sensible à ceux des autres, surtout quand ils sont plus gros et qu'on s'en sent des vrais drames, eh bien on vit mieux après.
Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre notre série d'émissions sur les émotions. Et d'ici là, portez-vous bien à l'écoute de Radio Grand Ciel.